On va parler d'une cause qui est assez intéressante. Hassan Diab, qui est un Canadien d'origine libanaise, qui a passé 3 ans dans les prisons, dans une prison en France, et qui finalement a été libéré parce qu'à l'époque, donc, on l'a soupçonné d'être impliqué dans un attentat terroriste qui remonte à plusieurs années. Donc, il est revenu au Canada. Il n'a pas l'intention de poursuivre le gouvernement canadien, mais il veut une enquête. Il veut savoir pourquoi on l'a arrêté, pourquoi on l'a extradé, puis pourquoi il a passé 3 ans en prison. Fabrice de Pierrebourg est avec nous. Fabrice, d'abord, il faut rappeler l'événement qui s'est produit à Paris et un attentat qu'on veut relier donc à Hassan Diab.
Oui, puis Paul, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est la fin d'une saga rocambolesque et d'une traque qui durait depuis 37 ans. 37 ans, là, c'est pas rien. Mais on peut parler d'une fin provisoire puisque la poursuite française a fait appel de ce non-lieu et l'histoire commence effectivement le 3 octobre 80 devant une synagogue de la rue Copernic, ça c'est près des Champs-Élysées à Paris. Il y a une moto piégée qui explose et qui tue 4 personnes, plusieurs autres, plusieurs dizaines d'autres sont blessés. Et cet événement est survenu juste avant la sortie de la prière du Shabbat, donc on pense que le bilan aurait pu être plus lourd. Et c'était apparemment le mécanisme, la minuterie qui s'était un peu enrayée. Mais bon, au fil du temps, travail acharné des enquêteurs, ils finissent par mettre un nom sur le suspect numéro 1, qui selon eux a acheté et déposé la moto piégée devant la synagogue. Ils sont convaincus qu'il s'agit d'Hassan Diab, qui entre-temps est devenu Canadien, c'est un homme d'origine libanaise, et qui était alors, selon eux, membre d'un groupe terroriste palestinien, d'ailleurs qui n'a jamais revendiqué l'attentat. Il retrouve sa trace au Canada, où il est devenu prof de sociologie à l'Université Ottawa, et il l'arrête en 2008 à Gatineau. Ils le font arrêter par la GRC en vertu d'un mandat d'arrêt international qui a été signé par 2 juges antiterroristes français. Il est transféré en France en 2014, où là, il est accusé d'assassinat, tentative d'assassinat, destruction volontaire de biens en relation avec une entreprise terroriste. Mais très vite, là-bas en France, les procédures s'enrayent lorsque son ex-épouse lui fournit un alibi. Elle dit qu'il était avec elle au Liban 6 jours avant l'attentat, alors que les enquêteurs français ont toujours soutenu qu'il était déjà à Paris à ce moment-là pour les préparatifs. Et c'est notamment ce rebondissement qui a affaibli encore plus ce dossier et a entraîné l'abandon des procédures qui causent aujourd'hui des remous dans le milieu de l'enquête. D'autant plus que beaucoup sont persuadés à Paris que même si la décision en appel est renversée, leur donne raison, il est très peu probable que le Canada va renvoyer à nouveau Diab en France pour être jugé, parce qu'il est revenu au Canada immédiatement, dès qu'il a été libéré la fin de semaine dernière.
Mais est-ce qu'on a pu voir quelle était la preuve? Comment on l'associait à l'attentat pour être aussi précis que ça, là?
Et là, on va peut-être parler après du processus d'extradition. Ça s'est passé devant des tribunaux au Canada. À l'époque, il y avait un juge canadien qui avait dit que la preuve était faible. Entre autres, il se basait sur des analyses graphologique, une fiche qu'il avait remplie à l'hôtel à Paris par rapport à un autre document. Semble-t-il qu'il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas d'empreintes. À l'époque, on ne parlait pas encore d'ADN. Et puis, il y avait une histoire de passeport. Mais c'est surtout quand ils avaient interrogé son épouse aux États-Unis, sa première épouse, à l'époque en 2008, elle avait refusé de répondre. Elle avait refusé de dire si elle était avec lui ou pas. Elle a changé d'avis, finalement, on peut dire, quelques années plus tard. Mais au niveau du Canada, on avait jugé que la preuve était quand même assez faible et les juges français qui l'ont remis en liberté, le parquet, a dit la même chose. C'est que c'était pas capable d'aller à procès avec un dossier suffisamment étoffé, quoi.
Oui, alors va être intéressant de voir la suite des choses, mais c'est quand même, on l'a extradé vers la France malgré tout.
Oui, on l'a extradé et hier, il a fait une conférence de presse à Saint-Diab avec plusieurs organismes dont Amnesty, puis il a dit qu'il fallait une enquête publique au Canada sur ce processus d'extradition qu'il juge, et je cite, pourri, quoi, et vicié. Or, faut quand même dire, Paul, que ce processus entre le Canada et la France, c'est régi par une convention qui date de la fin des années 80. C'est encadré et judiciarisé. C'est pas quelque chose qui se décide sur un coin de table. On reprend le cas de Diab, arrêté en 2008, libéré sous condition par un juge de la Cour supérieure de l'Ontario avec un bracelet électronique, finalement extradé à Paris que 6 ans plus tard, à la suite d'un long processus judiciaire qui est monté jusqu'en Cour suprême. Donc, on peut pas dire que c'est quelque chose qui est vicié puis qui est assez bancal. Et Diab a toujours nié, lui, en disant qu'il était victime d'homonymie. Mais vu de la France à l'époque, on trouvait que le Canada, au contraire, se traînait les pieds et beaucoup d'impatience, il y avait beaucoup d'impatience. Surtout que c'était le deuxième cas de Canadien qui était réclamé depuis des années outre-Atlantique pour des affaires de terrorisme. Puis à l'époque, j'ai retrouvé une entrevue que j'avais faite avec un haut responsable de l'antiterrorisme en France. Il m'avait dit que pour eux, ils pensaient que beaucoup de terroristes voyaient le Canada comme, je le cite, une zone de basse pression où ils savent qu'ils peuvent s'y réfugier sans crainte. Dans le cas de Diab, aujourd'hui, je pense que les Français doivent plutôt s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Merci beaucoup, Fabrice de Pierrebourg.